Nous l'avons entendu dans la première lecture, le prophète Jérémie. Du prophète Jérémie, Dieu se plaint des mauvais pasteurs, se plaint des brebis qui sont dispersées, et il fait une promesse. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis, et il dit au pluriel, je leur donnerai des pasteurs qui les rassembleront. Cette promesse va se réaliser avant tout dans le premier de tous les pasteurs, finalement l'unique pasteur de tous, celui que nous accueillons comme notre pasteur lorsque nous accueillons la foi et que nous demandons le baptême et que nous recherchons, continuons à chercher, à le suivre. Ce pasteur, c'est Jésus et c'est le moyen de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus va rassembler son peuple par sa croix, par son sang versé, comme nous dit la deuxième lecture, l'épître aux Éphésiens, chapitre 2. Jésus tue la haine, a tué la haine, il donne accès auprès du Père et il rassemble son peuple. Et nous voyons dans l'Évangile comment Jésus rassemble une foule immense à un tel point que lui-même et les apôtres n'ont plus le temps de se reposer, même s'ils le souhaitent, même si Jésus recommande le repos. Ils ne peuvent plus se reposer. Dans le livre de Jérémie, du prophète Jérémie, il parle de plusieurs pasteurs, parce que dans le plan de Dieu, l'unique pasteur, c'est vraiment Jésus, et c'est ce que nous croyons, et c'est ce auquel nous nous attachons, rien d'autre, il n'y en a pas d'autre pasteur. Et pourtant, Dieu, Jésus, va choisir, comme dans la volonté du Père, il va choisir de fonder son Église, d'accueillir, d'appeler les 12 apôtres, de les envoyer en mission, comme l'Évangile nous le dit aujourd'hui, avec les mêmes pouvoirs que Jésus, des pouvoirs étonnants, où ils font fuir les démons, où ils guérissent les malades, de la même manière que Jésus a pu le faire. Mais ils le feront au nom de Jésus, c'est-à-dire en la personne de Jésus, comme on dit « in persona Christi » en théologie. Ils feront cela, ils le font toujours aujourd'hui. Et l'Église est organisée de telle manière que même quand des pasteurs, à la différence dans la première alliance, c'est que dans la nouvelle alliance, à la différence quand des pasteurs sont infidèles, l'Église est structurée de telle manière que ces pasteurs sont sanctionnés ou bien sont écartés dès que l'Église voit qu'il y a de nouveaux pasteurs, des mauvais pasteurs. Et qu'en même temps, nous le savons, la théologie de l'Église nous le dit, même des mauvais pasteurs, quand ils donnent les sacrements, à partir du moment où ils donnent, ils veulent faire ce que l'Église veut faire, même si au pire ils perdent la foi, le sacrement est là. Et vous, fidèles, vous n'êtes pas privés. L'organisation de l'Église que Jésus a voulu est ainsi faite que désormais, réellement, le peuple se rassemble autour de Jésus. Jésus rassemble réellement son peuple. Et nous sommes donc dans l'action de grâce. Nous pouvons être dans l'action de grâce. Il nous faut nous forcer parfois à l'être, parce que quand on voit ce que l'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on peut s'inquiéter. Mais la réalité profonde de la manière dont le Seigneur conduit, nous conduit personnellement et en communauté, c'est Jésus, notre unique pasteur, qui agit à travers ses pasteurs au sein de son Église, et malgré leur infidélité, Jésus conduit toujours son Église et nous conduit, nous personnellement. Nous pouvons être dans la paix intérieure, dans la confiance, et nous pouvons être dans l'action de grâce. Et c'est le psaume 22 qui nous donne l'occasion de rendre grâce, le psaume que nous avons prié aujourd'hui. Un beau psaume, un psaume qui est utilisé selon la tradition pour la liturgie du baptême, même si aujourd'hui, dans la liturgie du baptême, on peut choisir d'autres psaumes. Il n'empêche que c'est le psaume 22 qui est le psaume majeur pour la liturgie du baptême. Un psaume d'action de grâce où nous reconnaissons comme le Seigneur étant notre berger. Le Seigneur est mon berger. Alors évidemment, dans la mentalité moderne, on peut se dire être des moutons et Jésus le berger, on n'est pas très, très enthousiaste. Mais il faut voir qu'à l'époque, à l'époque de Jésus et à l'époque de la Bible, eh bien, les troupeaux étaient la richesse de leur berger, de ceux qui les possédaient. C'était leur richesse. Et en fait, Dieu nous dit, en utilisant cette image du bon berger que Jésus va réutiliser lui-même, eh bien, Dieu nous dit, vous êtes ma richesse. Vous êtes ma richesse. On voit de nombreux exemples dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, quand on parle d'Abraham, on dit qu'il était riche. Il était riche en troupeaux, en argent et en or, mais en troupeaux. Et Job, que vous connaissez bien, le livre de Job, eh bien, de la même manière, parle de la richesse de Job en parlant aussi des troupeaux. C'était la richesse de l'époque. Et donc Dieu nous dit, vous êtes ma richesse. Vous êtes, il nous considère comme étant quelque chose qui lui est cher et qui fait sa richesse. Dans le psaume 22, eh bien, nous reconnaissons comme le Seigneur notre berger, donc c'est vraiment notre acte de foi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Et le Seigneur nous dit, il nous est dit dans ce psaume, qu'il nous conduit, qu'il nous mène sur un chemin. Le chemin qui nous éloigne, dans la compréhension de l'Ancien Testament, qui nous éloigne de toute idolâtrie. Alors évidemment, dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie, c'était des idolâtries concrètes, de paganisme. Mais dans la tradition de l'Église, on comprendra aisément que les idolâtries peuvent prendre plein de formes et que nous pouvons être des idolâtres en aimant autre chose plus que Dieu, en pensant à autre chose, en étant plus préoccupé par d'autres choses que Dieu lui-même. Non pas que les autres choses ne puissent pas être importantes, mais elles doivent toujours être en la seconde place par rapport à Dieu, pour que le Seigneur soit notre berger. Et donc il nous conduit, quand on le choisit, il nous conduit, il nous protège de ces idolâtries, il nous mène vers le bon chemin qui va nous mener à la vie éternelle et à la vie avec lui dès ici-bas. Et nous sommes dès ici-bas avec lui parce qu'il est notre pasteur justement. Le psaume nous dit, toi Seigneur, tu es mon berger, tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Ton bâton me guide et me rassure, on peut comprendre dans le bâton qui guide et nous rassure, alors on pense bien sûr à la crosse des évêques, mais on peut comprendre dans ce bâton qui nous guide et nous rassure la croix du Seigneur. C'est elle qui nous rassure. Même si nous traversons les vallées de larmes, comme nous dit ce même psaume, nous ne craignons rien parce que son bâton nous protège, c'est sa croix. Et nous suivons Jésus qui tient sa croix. Je vous disais tout à l'heure, ce psaume est utilisé dans la liturgie du baptême. Il nous est parlé dans ce psaume des eaux tranquilles et vivifiantes. Il s'agit bien du baptême. Il me mène vers les eaux tranquilles. Les baptisés, dans l'Antiquité, recevaient le baptême à l'extérieur des églises. Alors, pour l'instant, on le fait à l'intérieur, on ne fait pas encore à l'extérieur. Mais ils recevaient le baptême à l'extérieur parce qu'ils n'étaient pas encore chrétiens. Et une fois qu'ils étaient devenus chrétiens par le baptême, eh bien, les eaux qui font revivre, hein, tu me mènes, les eaux tranquilles, et me fais revivre, eh bien, une fois, ils sortaient, ils chantaient le psaume. Ce psaume, il le chantait pour être accueilli dans les cathédrales par les évêques qui allaient les confirmer avant de participer à l'Eucharistie. Et donc, dans le même psaume, il nous est dit « Tu prépares pour moi une table. » Il nous est parlé de « Ma coupe est débordante. » Eh bien, il s'agit bien de l'Eucharistie dont il est question. Et il est enfin dit aussi dans ce même psaume, je cherche à chaque fois le passage. Tu répands sur moi le parfum sur ma tête. Ce parfum, c'est celui de la confirmation. Oui, l'Église a compris, et ce psaume qui a été écrit presque 2000 ans avant Jésus, eh bien, donc il y a 3000 ans de cela, eh bien, le psaume nous dit déjà tout ce que nous vivons dans la grâce du baptême quand nous choisissons Jésus, quand nous nous laissons rassembler par Jésus. Et Jésus qui est, et le psaume se termine en disant « Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » C'est son église. Grâce et bonheur nous accompagne. Alors pourquoi j'ai fait ce petit commentaire sur ce psaume? C'est simplement pour vous encourager à lire les psaumes, à prier les psaumes. Dans les psaumes, qui sont une prière inspirée par le Saint-Esprit, puisque c'est la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, l'auteur principal de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est pas les hommes, même si c'est écrit par des hommes après, mais c'est l'Esprit-Saint qui... Eh bien, les psaumes sont la prière, c'est le livre des psaumes, c'est le livre de prière qui a été prié, qui est prié encore aujourd'hui par tous les judéo-chrétiens, par tous les juifs et les chrétiens. C'est la prière par excellence. Et dedans, tout se tient. C'est Jésus qui prie, c'est l'Église qui prie, et c'est notre prière à chacun. Je vous encourage à lire les psaumes. Vous avez, il y en a pour tous les goûts, tous les sentiments sont exprimés dans les psaumes. Il y a des psaumes très courts, comme le psaume 116, qui fait 4 lignes, ou bien le psaume 118, qui est le plus long. Le psaume 1, aussi le premier psaume, qui nous invite à prendre le bon chemin et à choisir le Seigneur. Le psaume 150, le dernier, qui nous invite à louer. Tous les psaumes sont louanges. Il y a aussi des psaumes de pénitence, comme le psaume 50, bien connu. Et je pourrais continuer la liste. Lisez les psaumes, profitez des vacances pour ouvrir ce livre et prier avec les psaumes. Prenez le temps, soit en les lisant vite, soit en les lisant patiemment, en réfléchissant à ce qui est évoqué, pour pouvoir, en méditant sur ce qui est lu, pour pouvoir mieux prier et approfondir cette relation à la parole de Dieu par le livre des psaumes. Je ne peux m'empêcher, pour terminer, de citer le psaume 130, que vous connaissez tous, qui est le psaume thérésien par excellence. C'est pour ça que je le cite. « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. Non, je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël maintenant et à jamais. » Je vous invite, je vous souhaite de vous abandonner sur le cœur de Dieu et d'avancer en vous laissant conduire par Jésus. Amen.